France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
7h40 sur France Culture. En prison, la privation de liberté vaut-elle privation de dignité? J'ai même du mal à le dire, ça veut peut-être dire quelque chose. Je répète, donc en prison, est-ce que la privation de liberté vaut privation de dignité? Une question qui concerne aujourd'hui les 70 000 personnes détenues dans des établissements pénitentiaires. Au lendemain de la remise du rapport La Nuit, dans les lieux de privation de liberté qui pointe bruit, solitude et temps long, un enfermement dans l'enfermement, nous recevons la magistrate Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Bonjour.
Bonjour.
Et à vos côtés, Delphine Boisel, avocate au barreau de Paris, présidente de l'Observatoire international des prisons, section française, qui veille au respect des droits fondamentaux en prison et qui a, elle aussi, l'organisation, publié son rapport début juin sur les violences des surveillants de prison, encore tabou aujourd'hui en France. Bonjour à vous.
Bonjour.
C'est le premier coup de projecteur sur les conditions de vie la nuit des détenus. Adeline Hazan, qu'est-ce qui vous a alerté? Pourquoi ce rapport aujourd'hui?
Ce qui nous a alerté, c'est que lors des 150 visites par an que nous effectuons dans l'ensemble des lieux de privation de liberté, nous faisons toujours une visite de nuit et nous avons voulu vérifier justement comment les personnes privées de liberté vivent ce moment qu'est la nuit, et nous avons observé que les droits fondamentaux qui déjà posent problème dans la journée sont encore moins bien respecté la nuit.
Alors les nuits sont longues.
Alors les nuits sont longues.
19h, 7h, plus de 12 heures enfermées dans une cellule pour les détenus sans autorisation de sortie, entre promiscuité et insalubrité, manque de lit, prolifération de petites bêtes, ça va des punaises de lit aux rongeurs. Trop chaudes en été, les cellules trop froides en hiver. La nuit aussi, c'est moins de surveillants, peu ou pas d'équipe médicale. C'est ça la réalité concrète des nuits en prison?
Absolument. Et même si nous allons ce matin parler des prisons, je voulais quand même préciser que ce rapport englobe l'ensemble des lieux de privation de liberté, parce que la nuit dans un commissariat pendant la garde à vue, ou la nuit dans un centre de rétention administrative pour un étranger en voie d'expulsion, ou pour un jeune dans un centre éducatif fermé, c'est aussi une période que nous avons voulu examiner. Mais ce matin, donc, nous allons parler des prisons. Et il est vrai que compte tenu des restrictions de personnel et la surpopulation carcérale, puisqu'on sait qu'il y a plus de 71 000 détenus en ce moment dans les prisons françaises, eh bien cela démultiplie considérablement tout ce qui est difficile à vivre dans la journée. Vous avez énuméré un certain nombre de phénomènes que nous décrivons, mais c'est d'abord une question de dignité que nous rencontrons quand nous observons ces conditions de vie la nuit, parce que déjà vivre par exemple à 3 dans une cellule de 9 mètres carrés pendant la journée, c'est très difficile, mais vivre de 18h à 7h du matin sans pouvoir sortir du tout de sa cellule, en ayant des toilettes dans sa cellule, en s'il y a un matelas par terre, en attendant que la personne qui est sur le matelas puisse se lever pour que les autres puissent descendre, un puisse descendre en l'occurrence pour aller aux toilettes. Tout ça, c'est franchement contraire à la dignité élémentaire qu'un état de droit doit apporter aux personnes qu'elle détient.
Autre lieu d'enfermement que vous n'avez pas cité, c'est les hôpitaux psychiatriques,
absolument,
les services
absolument.
Cas de psychiatrie dans des hôpitaux. Moi, je me souviens d'un reportage que j'avais réalisé à la Timone à Marseille, dans ces lieux-là. Et ce qui frappe avec les équipes soignantes, ce qui frappe, c'est le silence. Un silence qui est assourdissant, où chaque bruit résonne et prend une ampleur qu'on imagine même pas. Et cette question du bruit et du silence, elle est aussi très présente dans votre rapport, Adeline Hazan. L'un comme l'autre, le silence comme le bruit peuvent être oppressants. C'est les rondes de nuit, les grincements, les cris, le vent, le manque de sommeil. Et là, je me tourne vers vous, Delphine Boisel, peut avoir aussi des conséquences plus graves qu'on l'imagine, parce qu'ils sont empêchés de dormir, ces détenus, par tous ces bruits qui les réveillent. C'est ce que montre ce rapport et c'est ce qu'on peut imaginer.
C'est ce qu'on peut imaginer, et notamment parce que quand vous êtes à 4 dans une cellule, la télé fonctionne aussi beaucoup dans les maisons d'arrêt la nuit. Le besoin de... donc il n'y a pas de silence, justement. Et là, il y a une vraie privation du silence et de la difficulté d'endormissement, la difficulté de pouvoir vivre à 4 dans une cellule de 9 ou 10 mètres carrés. Donc, avec forcément des répercussions, même après, sur la journée, en termes de fatigue, en termes de d'énervement, de frustration. Donc c'est un rapport que moi j'ai trouvé aussi très intéressant sur la thématique, effectivement, de pointer sur cette nuit qui, et vous le dites aussi dans le rapport, normalement est le lieu où on est censé se poser, on est censé se reposer d'une journée et qui là va finalement générer des moments d'angoisse, des moments de nous priver finalement de ce repos qui est salutaire. Et voilà, moi je trouve ce rapport effectivement très très opportun, très important.
Il y a quelque chose qui vous a marqué ou surprise dans ce que vous en avez lu entre les lignes
sur la thématique prison? Rien ne m'a surpris, en fait, parce que c'est effectivement tant d'un point de vue d'avocate ou même de ce qui nous est remonté à l'Observatoire international des prisons, des éléments qui nous sont de toute façon connus.
Il y a une dernière chose qu'il faut pointer, c'est que les cellules sont aussi des espaces collectifs, hein. C'est pas des espaces individuels et personnalisés. Est-ce qu'il y a un droit à l'intimité qui est reconnu en prison, Aline Hazan?
Il est reconnu, il fait partie des droits fondamentaux, au même titre que le droit à la santé, que le droit à l'hygiène, que le droit justement à la dignité, qui chapeaute d'une certaine façon tous les autres, mais il n'est absolument pas reconnu, parce que...
Enfin, il est reconnu mais pas appliqué.
Il n'est pas appliqué.
Parce qu'en fait il se pose pour la question, j'imagine, des fouilles, des détenus, l'intimité aussi sous l'angle du lien qu'on peut entretenir avec les familles, mais peut-être pas l'intimité dans les cellules.
Alors l'intimité dans les cellules, elle peut exister si on est dans un établissement pour peine, c'est-à-dire pour peine plus longue et que la personne est seule. Quand la personne est à 3 ou 4 dans une cellule, il n'y a absolument plus d'intimité. Mais l'intimité, elle se joue aussi dans le moment de rencontre de la famille ou des proches au parloir. Et là, c'est une intimité qui est difficile à faire respecter parce que peu ou prou, le détenu est quand même sous le regard des surveillants. Sa façon aussi de pouvoir téléphoner à l'extérieur, il doit profiter des points phones et il n'y a aucune intimité. Heureusement, il y a une nouvelle expérience qui permet pour tous les établissements d'avoir un téléphone, les nouveaux établissements d'avoir un téléphone en cellule, mais ça ne fait que commencer à se dérouler. Et puis, à ce moment très très difficile et qui est malheureusement de plus en plus fréquent et de moins en moins réglementé, qui est celui, vous l'avez signalé, des fouilles. Et je parle des fouilles à corps, c'est-à-dire que très souvent après un parloir, un détenu est fouillé à corps. Ça veut dire fouillé à nu, hein, fouillé à corps. Il faut le savoir. Et que là où à un moment c'était, depuis la loi de 2009, c'était quand même très encadré, ça l'est de moins en moins, même si une loi prévoit les conditions dans lesquelles un détenu peut être fouillé. Mais les circonstances qui peuvent y conduire sont de plus en plus, les critères sont de plus en plus larges. Donc là, il y a aussi une vraie atteinte, alors pas seulement à l'intimité, mais à la dignité. Et nous recevons énormément d'ailleurs de requêtes des détenus se plaignant de cela. Car je précise que, à côté des 150 visites que nous effectuons par an, nous recevons environ 4000 lettres par an, dont à peu près 90% viennent des détenus ou de leurs proches. Et ça revient souvent, justement, ces questions de dignité, d'intimité, de violence également. Mais
qu'est-ce que ça veut dire, ce mot de dignité en prison? À vous lire, on a le sentiment qu'il est un peu grand, ce mot, et qu'il n'aurait pas sa place en prison, mais qu'est-ce que vous mettez derrière? Qu'est-ce qui est digne? Qu'est-ce qui est indigne? Alors, jugé comme tel pour des détenus.
D'abord, il a sa place en prison, comme il a sa place absolument partout, puisque c'est le droit fondamental qui génère tous les autres, en fait, hein, la dignité. C'est-à-dire, c'est du droit à la dignité, d'une certaine façon, qu'on peut dire que les autres droits découlent, l'intimité, l'accès à la santé, l'accès aux droits familiaux, etc. Et déjà, le rapport de subordination qui est normal et inévitable dans un établissement pénitentiaire, eh bien souvent en prison, il est effectué d'une façon qui ne respecte pas l'individu, c'est-à-dire la façon de lui parler, c'est-à-dire la façon de l'obliger même à vivre comme il vit, c'est-à-dire le fait que le détenu n'ait pas droit non plus à un accès à la santé normale. C'est tout ça la dignité, et c'est un ensemble qui fait que, au fond, compte tenu de ce qui se passe en prison, la personne n'est pas considérée comme une personne, comme un citoyen qui a l'ensemble de ses droits. Et ce que moi je répète en permanence, je suis pas la seule d'ailleurs à le répéter, c'est que l'incarcération, c'est évidemment la privation de la liberté de circuler librement, mais ça ne doit pas être autre chose. C'est-à-dire que tous les droits afférents à la personne, qu'on appelle les droits fondamentaux et que je viens de citer, ils doivent être respectés. Alors bien sûr, ils ne peuvent pas être respectés comme dans la vie en liberté, mais justement ce qui est important et ce que nous observons et ce que nous surveillons en permanence, c'est que les restrictions à la liberté soient proportionnelles avec le besoin de sécurité. Et la plupart du temps, ça n'est plus proportionnel.
Et ça fait écho, Delphine Boisel, au dernier rapport publié par l'OIP, l'Organisation internationale, début juin, des violences de surveillants de prison, encore tabous, souvent impunis, omerta, opacité, impunité, enquête donc sur ces violences commises par des agents de la pénitentiaire sur des personnes détenues. Là encore, il y a un silence qui est difficile pour vous à briser sur ces questions-là et qui est important de rappeler que la prison n'est pas une zone de non-droit. C'est un espace de privation de liberté, mais ça ne veut pas dire qu'on peut y faire n'importe quoi.
Alors, c'est exactement ça. En fait, c'est un lieu de privation de liberté, c'est un monde violent également. Vraiment, nous savons, et ça a été de manière assez importante documenté sur les violences, parce qu'on parle souvent des violences des personnes détenues sur les personnels. On parle un peu moins des violences des détenus entre eux. On ne parle, je ne vais pas dire jamais, mais très rarement, du fait que des personnels pénitentiaires peuvent avoir des comportements violents à l'encontre des personnes détenues. Ça nous a interrogés à l'OIP, nous avons reçu sur les deux dernières années un peu moins de 200 signalements de personnes qui se plaignaient de comportements violents de la part de personnel, sans que, au-delà du dépôt d'une plainte, au-delà de la difficulté finalement d'enquêter, la difficulté de pouvoir documenter cette situation, et c'est pour ça que nous nous y sommes intéressés. Et ce rapport, il est le travail final d'une quasiment centaine d'entretiens que nous avons eus avec vraiment toute la chaîne, je dirais la chaîne pénale, mais au-delà, c'est-à-dire tant de personnes détenues sorties de détention, de proches, mais également de procureurs de la République, de magistrats, de médecins, de directeurs de prison, de surveillants de prison, qui nous ont également alertés sur le fait que c'était même compliqué pour eux de travailler dans ce monde si violent, notamment lorsqu'ils étaient confrontés à certains collègues qui avaient des comportements, au-delà d'être inadéquats, ne respectant pas le code de déontologie de l'administration pénitentiaire, commettaient des infractions pénales. Mmh. Ça nous semblait véritablement important de pouvoir briser cette omerta, de briser le silence, pour alerter aussi sur la situation que vivent les personnes détenues de ce point de vue-là.
Alors voilà, aujourd'hui deux rapports, hein. C'est chaque année qu'on a des rapports sur les prisons, mais qui pointent aujourd'hui deux particularités, cette question de la nuit donc dans les prisons, sur ce rapport que vous avez rédigé avec vos équipes, Adeline Hazan, je rappelle que vous êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté, la nuit dans ces lieux de privation de liberté, et le rapport que l'Observatoire international des prisons que vous présidez aujourd'hui, Delphine Boisel, a publié début juin sur la question des violences commises par des agents de la pénitentiaire sur les détenus. C'est donc des coups de projecteur que vous dressez aujourd'hui, pointés vers cette situation des détenus en prison. L'objectif de tous ces rapports à répétition, c'est quand même d'interpeller les décideurs sur les conditions de détention. On va se pencher après le journal de Claire Flochel sur la réponse politique. Mais ce que vous montrez l'une et l'autre, c'est qu'il y aurait une sorte de culture française de l'enfermement. On a un nombre record cette année encore de détenus, 71 828 détenus l'an passé pour quelques 61 000 places au 1er avril. Ça nous dit quoi? Ça nous dit surpopulation carcérale, on entasse. Adeline Hazan, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire autrement aujourd'hui?
Non, pas parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce que souvent les moyens ne sont pas donnés, notamment pas aux magistrats, pour prononcer d'autres peines qui pourraient être des alternatives à l'incarcération. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'emprisonnement, l'incarcération reste beaucoup trop ancré à la fois dans l'esprit des gouvernants et aussi dans l'esprit de l'opinion publique comme étant la seule finalement la seule sanction qui vaille. Et je crois qu'il faut absolument qu'il y ait de la pédagogie là-dessus et qu'on fasse comprendre aux gouvernants et à l'opinion publique que quand il y a une alternative, c'est-à-dire un bracelet électronique, un sursis mis à l'épreuve, un contrôle judiciaire, ça n'est pas rien. C'est-à-dire il n'y a pas l'incarcération ou rien. Il y a toute une série de mesures entre les deux qui permettent de sanctionner s'il faut sanctionner la personne, mais sans l'enfermer. Quand on sait que en détention provisoire, par exemple, il y a actuellement un tiers des personnes détenues qui sont en détention provisoire, quand on sait que la comparution immédiate, qui est quand même une forme de justice d'abattage compte tenu des conditions dans lesquelles elle se déroule, envoie énormément de personnes en prison, je pense qu'il y a urgence à réformer la procédure de comparution immédiate et la procédure de détention provisoire. Or, malheureusement, c'est un des grands vides de la loi qui a été promulguée en mars 2019 qui n'a pas touché à ça. Donc, personne pour le moment n'a osé réformer ces procédures qui sont des procédures qui, à l'évidence, sont des couloirs pour entrer en prison.
Cette situation de surpopulation carcérale, elle a été pointée notamment par les Nations Unies. Alors la France n'est pas le seul pays concerné par cette question. L'Italie a été condamnée aussi pour ses conditions indignes de détention. Et puis on peut se tourner aussi aujourd'hui vers les États-Unis, où un rapport de l'inspection générale du ministère américain de la Sécurité intérieure sur les conditions de détention des migrants clandestins au Texas, à la frontière avec le Mexique, a été rendu récemment. Entre surpopulation et insécurité. Écoutez un extrait de ce témoignage.
Ils nous ont donné peu de nourriture. Certains enfants ne sont pas lavés. Ils nous traitent vraiment mal ici. Ils sont méchants avec nous.
Il y avait des toilettes, mais pas d'eau potable pour que des gens boivent. Une des femmes ici a expliqué qu'un agent lui a dit de boire l'eau des toilettes.
Ce qu'on a vu aujourd'hui est inconcevable. Un enfant ne devrait jamais être séparé de ses parents.
Voilà, témoignage d'abord d'une jeune migrante mexicaine de 12 ans, suivie des critiques adressées par des élus démocrates à l'exécutif américain. Donald Trump a réagi hier. Si les immigrants illégaux ne sont pas contents de leurs conditions dans les centres de rétention construits ou rénovés rapidement, a-t-il dit, dites-leur simplement de ne pas venir. Delphine Boisel, ça c'est une réaction peut-être à l'extrême, comme le président américain nous y a habitués, mais ça dit quelque chose aussi de nos mentalités à tous, c'est de penser que quand même, les gens qui sont aujourd'hui en prison ou dans des centres de rétention ont choisi de venir, ils l'ont quelque part mérité, si ça ne leur va pas, ils n'avaient qu'à pas.
Exactement, c'est souvent ce que l'on entend. Après tout, s'ils ne veulent pas être en prison, il ne fallait pas commettre d'infraction. C'est véritablement un raisonnement, je vais oser le terme, bas de plafond en fait, parce que ça empêche d'interroger sur qui va en prison aujourd'hui, qui sont les personnes au travers des 71 828 personnes qui sont détenues aujourd'hui, qui sont-elles ? Et souvent on se rend compte que c'est l'enfermement de la précarité, l'enfermement de personnes qui sont jeunes, non formées, et ça interroge en fait beaucoup plus globalement finalement la société dans laquelle nous vivons et la manière dont nous sommes capables de gérer nos problématiques sociales. Et c'est ça finalement que veut dire aussi la surpopulation, en rejoignant ce que disait Adeline Hazan tout à l'heure sur la population des comparutions immédiates. C'est la justice de la pauvreté, c'est la justice de la précarité. Et ce sont ces personnes-là que l'on retrouve actuellement en détention.
Adeline Hazan.
Oui, moi je voudrais compléter en disant que malheureusement, ce qu'on observe, et ce qu'on observe depuis, je dirais, une grosse dizaine d'années, c'est que dans notre société française, il y a de plus en plus ce réflexe de l'enfermement. Nous, on le voit dans tous les secteurs, que ce soit dans la prison, nous venons d'en parler, que ce soit dans les centres de rétention, puisque je rappelle que depuis quelques mois, les personnes peuvent rester 90 jours, et pas seulement 45 jours. 90 jours, c'est 3 mois, c'est énorme. énorme. Que dans les hôpitaux psychiatriques, l'hospitalisation sans consentement n'a jamais atteint de chiffres aussi importants que maintenant et qu'il n'y a jamais eu non plus autant de mineurs incarcérés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, le réflexe, c'est l'enfermement. Alors pourquoi? Peut-être parce que notre société tolère de moins en moins les personnes qui ne sont pas complètement dans la norme, c'est-à-dire qui ne respectent pas totalement la loi ou qui sont en situation irrégulière pour des étrangers ou pour des enfants qui dérapent à un moment donné, comme s'il n'y avait pas d'autre solution que l'enfermement.
Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté, et Delphine Aboisel, avocate et présidente de l'Observatoire international des prisons section française, sont nos invités jusqu'à 8h30.
France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Surpopulation et conditions de vie en détention, en prison, la privation de liberté vaut-elle privation de dignité? On en parle avec nos deux invités depuis 7h40 au lendemain de la remise du rapport La nuit dans les lieux de privation de liberté par Adeline Hazan et ses équipes. Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté. À nos côtés aussi, Delphine Boisel, la présidente de l'Observatoire international des prisons, section française. On entendait le témoignage de la réalisatrice Marion Gervais autour de la figure du jeune Louis, l'histoire n'est jamais écrite pour ces jeunes-là. Delphine Boisel, je rappelle que vous êtes aussi avocate. Est-ce qu'on peut avoir fricoté avec la petite délinquance, avoir mis en danger d'autres personnes ou s'être mise en danger sans que la dérive soit une fatalité?
C'est une vaste question. Ce qui doit être certain, c'est que même quand on passe par la case prison, on peut s'en sortir.
Alors, j'allais vous demander, est-ce que pour des jeunes majeurs, un court passage en prison, ça peut servir d'électrochoc?
C'est une question piège. C'est une question piège parce que ça peut détruire tellement que pour une personne pour laquelle ça va servir d'électrochoc, combien vont chuter par la suite avec ce qu'ils vont avoir vécu en détention, avec ce que nous pouvons décrire au fil de nos rapports sur ce qu'ils vont voir à l'intérieur, comme la reproduction parfois de ce qu'ils vivent à l'extérieur, comme l'aggravation de leurs conditions de vie de l'extérieur. Donc c'est une question piège parce que oui, j'ai rencontré dans mon exercice professionnel une ou deux personnes pour laquelle ça a pu à un moment servir véritablement d'électrochoc, mais parce que aussi il y avait quelque chose à l'extérieur, une famille qui pouvait être très présente, qui pouvait dire c'est la seule fois où tu vas déraper. Mais souvent on est aussi confronté à des personnes tellement isolées. Alors moi je vais le regarder le documentaire ce soir parce que la réalisatrice elle en parlait aussi tellement. Le fait de ne pas savoir rêver, le fait de ne pas avoir de passion, le fait de ne pas avoir, peut conduire effectivement à être enfermé à l'extérieur dans des groupes de copains, dans une autre famille qu'on se constitue. Voilà.
C'est cette absence de rêve qui est compliquée aussi, l'absence de perspective et d'envie d'envisager aussi l'avenir et le futur. La surpopulation carcérale, ce taux d'occupation qu'on évoquait ensemble dans la première partie de ces matins, est aussi le fruit, nous disiez-vous Adeline Hazan, d'une philosophie que traduisent les politiques pénales successives. On disait aussi des rapports à répétition pour tenter d'alerter, d'interpeller les décideurs politiques. Alors il y a un plan prison qui a été annoncé par l'exécutif et qui prévoit aujourd'hui 7000 places, nouvelles places de prison au lieu de 15000 précédemment et une montée en puissance des peines alternatives. Le président parlait aussi de recruter plus d'un millier de conseillers d'insertion et de créer une agence du travail d'intérêt général. Je propose d'écouter les mots de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, devant la commission des lois. C'était en septembre dernier.
Nous construirons 15000 places de prison. Mais vous savez très bien, et nous avons regardé un peu sur le temps long, le délai qu'il fallait pour construire une place de prison. Nous sommes autour de 6 ou 7 ans. Peut-être un peu moins lorsque nous serons sur des places moins sécuritaires, je pense aux structures d'accompagnement vers la sortie. Mais en toute hypothèse, il faut un temps long. Et donc, nous lancerons entre 2018 et 2022, les 8000 places qui seront livrées après 2022. Il faut acheter les terrains, il faut faire les études, il faut construire. Donc, il faut du temps. Nous pourrons réellement, d'ici 2022, réellement en dur proposer les 7000 premières places et lancer effectivement les 8000 autres.
Madeleine Azan, est-ce qu'il faut construire aujourd'hui ?
Mais en tout cas, ce que vient de dire la garde des Sceaux et ce qu'on sait, c'est-à-dire la construction d'une tranche de 15 000 places de prison est une erreur grave. Pourquoi ? Parce que autant il faut construire quelques milliers de places, ça va de soi, ne serait-ce que pour renforcer ce qui existe et ce qui est délabré, mais la construction, toujours cette course à l'inflation carcérale, est une erreur grave. Si on regarde d'ailleurs ce qui s'est passé dans les 30 dernières années, c'est un chiffre que je rappelle souvent, on a doublé le nombre de places de prison en 30 ans et il n'y a jamais eu une surpopulation carcérale aussi importante.
Ça veut dire que ça ne désengorge pas les prisons.
Ça veut dire que ça ne désengorge pas les prisons et que plus on en construit, plus on envoie de détenus. C'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème, c'est comment faire pour incarcérer moins au début, libérer de façon un peu plus anticipée certains, avoir une véritable réflexion sur le sens de la peine, sur le sens des courtes peines qui sont particulièrement désocialisantes. Et là, je crois que toutes les personnes qui s'intéressent à la prison ont été extrêmement déçues parce que dans un premier temps, il y a eu un discours du président de la République en mars 2018 à Agen qui était très porteur d'espoir parce que justement, il prenait tous ces concepts et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu une parole aussi forte dans la bouche d'un président de la République. Et puis la loi qui en est sortie et qui a été votée un an après, en réalité elle ne reprend absolument pas ses objectifs et je crains beaucoup qu'elle ne conduise absolument pas à une baisse de la surpopulation carcérale, voire même qu'elles conduisent à une augmentation de cette population carcérale.
Voilà, il y a aussi en test actuellement sur plusieurs sites une régulation carcérale. De quoi s'agit-il en deux mots ?
Alors, moi, je soutiens beaucoup cette mesure, qui est une mesure qui permettrait que, à la suite d'une concertation sur chaque ressort entre les juges d'application des peines, le parquet et la direction de la prison, on puisse réfléchir sur quelle personne pourrait sortir un petit peu à l'avance à la fin de sa peine avec une préparation de façon à en faire rentrer d'autres et que on vise 100% de taux d'occupation et que on ne tolère plus ces 140, 180, 200% de taux d'occupation. Alors la garde des Sceaux a annoncé qu'elle reprenait cette proposition. Elle l'expérimente sur 10 sites. J'attends de voir comment ça se passe. Normalement, ce qui a été dit, mais il va falloir voir si ça rentre dans la réalité, ce qui a été dit par la garde des Sceaux, c'est que si cette expérimentation fonctionne bien, alors elle le généralisera sur l'ensemble du territoire.
Voilà, puis à noter qu'un plan santé vient aussi d'être présenté lundi, conjointement par les ministres de la Santé et de la Justice, pour résoudre les problèmes de carence. Là, on parle du système médical en prison pour améliorer la santé en détention, et ça vaut pour le jour comme pour la nuit. Il y a des mesures alternatives à la rétention, elles sont nombreuses, elles sont peut-être difficiles à mettre en pratique, des contrôles judiciaires aux assignations à résidence, au travail d'intérêt général, toujours peu privilégiées par rapport à l'incarcération, alors que vous l'avez démontré, Delphine Boisel, avec l'OIP, le rapport coût-efficacité de la prison pour la société est loin d'être établi. Il y a des mesures alternatives et il y a des modèles alternatifs. Très rapidement, je vous propose un extrait du documentaire de Guillaume Massard, La Liberté, sur Casabianda. C'est une prison à ciel ouvert en Corse pour les délinquants sexuels, où l'absence de clôture et la liberté de mouvement peuvent parfois aussi s'avérer assez déroutantes pour les détenus.
Les personnes extérieures, quand ils voient tout ça, ils se disent, ils sont en prison, mais vu le cadre qu'ils ont, t'as quitté un enfer pour en retrouver un autre, mais qui est pire. Tout passe par la psychologie. Et c'est terrible.
Exemple d'une prison à ciel ouvert, Delphine Boisel. C'est important aussi de préparer les détenus au retour à la vie normale. Hein, une manière aussi de lutter contre les effets qui peuvent être assez désocialisateurs de la prison.
C'est un des sens de la peine. Au-delà de sanctionner, il faut aussi prévoir l'après. Et nous évoquions tout à l'heure le plan de construction de prison. Ça va nous coûter extrêmement cher. Vous évoquiez également le fait que Nicole Belloubet avait parlé de créer 1500 places de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui travaillent déjà actuellement dans des conditions extrêmement difficiles. Les 1500 postes supplémentaires vont à peine couvrir les besoins actuels que nous avons avant même l'entrée, la réforme qui a été votée au mois de mars dernier. Ce sont des personnes qui accompagnent les personnes détenues tout au long de leur détention, au moment de l'entrée en prison jusqu'à la préparation à la sortie et au-delà dans le cadre des mesures alternatives. On met de l'argent dans la construction de places de prison, on ne met pas d'argent dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, on ne met plus d'argent dans les associations d'insertion qui sont chargées justement d'accompagner au-delà de la prison ou être une alternative à l'incarcération. On privilégie, nous dit-on, les alternatives alors que il y a des baisses de budget dans toutes les associations d'insertion. On nous ment, très clairement, on nous ment quand on nous dit que on veut moins incarcérer, alors que, comme disait Adeline Hazan tout à l'heure, le résultat de la réforme pénale qui vient d'être votée risque, au contraire, d'aggraver la surpopulation que nous connaissons actuellement, sans permettre justement aux personnes détenues et aux personnes qui vont travailler avec elles pour essayer de leur permettre de sortir dans de bonnes conditions, de faire du bon travail.
Merci beaucoup à vous, Delphine Boisel. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Observatoire international des prisons. Et merci à vous, Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Vos rapports sont en ligne et consultables par ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci.